oscillation atemporelle. Et si le dimanche à 19h était le moment d'une autre évasion sonore décalée et pas pareille sur fréquence 7, le moment d'une pause grandiose, intimiste, virtuose aussi, qui résonne des créations sonores et musicales d'au-delà notre quotidien, ce que très largement chacun appelle selon son goût dans notre monde occidental, musique classique, musique savante ou grande musique. Les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, à 19h, Oscillation Atemporelle vous propose de partir pour une heure à la découverte de ces musiques en suivant le fil d'une époque, d'un compositeur, d'un musicien, d'un instrument, un orchestre ou un chef d'orchestre ou d'une forme musicale. Cela agrémenté de l'histoire dans l'histoire des œuvres diffusées, de petits potins et de la raison en toute mauvaise foi passionnée de leur choix. Oscillation Atemporelle est animée par Marie au micro et à la conception, avec la complicité de Philippe Forger et le soutien technique de Sylvain. Nous partons ce joli mois de novembre à la découverte des complicités entre les musiques symphoniques et le cinéma. Diffusion le 3 novembre, rediffusion le 17 novembre. Pour une écoute à votre convenance, rendez-vous sur le site fréquence7.net. En lecture directe ou téléchargée. Philippe partage volontiers ses connaissances sur notre sujet du jour.
Alors la première fois qu'une musique a été composée pour le cinéma, c'était pas des acteurs à proprement parler, c'était des comédiens de la Comédie française, et en fait c'était un film muet qui s'appelait L'assassinat du duc de Guise. Alors on les voit tous, évidemment, comme c'est muet, dans une gestuelle très 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 expressive, on va dire. Et alors, pour la première fois, on a demandé à un compositeur d'écrire de la musique pour l'image. Et c'était un certain Camille Saint-Saëns. Le même Saint-Saëns que le Carnaval des animaux. Et Saint-Saëns a écrit une partition, effectivement, pour l'assassinat du duc de Guise. Et depuis cette partition, là on est 1905, depuis cette partition, énormément de compositions originales ont été créées pour le cinéma, pour l'image. Et c'est formidable parce qu'il y a des couples fameux qui se sont formés. Il y a assez proche de nous, Nino Rota avec Fellini. On peut dire Kurosawa avec Takemitsu, on peut dire John Williams avec Spielberg, on peut dire Peter Greenaway avec Michael Nyman. Enfin, on peut en citer plein comme ça, des couples célèbres. Mais il y a cette chose indissociable du son et de l'image, c'est-à-dire que le son appelle une situation, préfigure, des fois c'est un système de leitmotiv, hein, ça c'est Wagner qui avait créé ça, c'est-à-dire tel motif musical évoque un personnage ou évoque une situation, même si on ne le voit pas. C'est le requin des dents de la mer, par exemple, chez Spielberg, dans la musique de John Williams. On n'a pas besoin de le voir, on l'entend. Donc c'est ces deux petites notes-là qui sont devenues très 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 célèbres. Et du coup, voilà, le rapport intime de l'image et du son fait que la musique est devenue un partenaire indissociable du cinéma. Alors les compositeurs classiques s'y sont frottés aussi, Shostakovich, Prokofiev avec Eisenstein, si c'est le cuirassé Potemkin ou si c'est Alexandre Nevsky, c'est des vraies partitions de Prokofiev pour le cinéma. En France, il y a des Henri Sauguet, des Arthur Honegger, des Jacques Ibert qui ont composé aussi beaucoup pour le cinéma. Cosma, le Cosma des Feuilles mortes, a aussi composé beaucoup pour le cinéma. Donc il y a aussi une façon, par le biais de cette musique-là, et puis par le biais de la, comment dire, de cette musique dite savante, j'aime pas bien le mot, mais dite savante, de se populariser aussi auprès des publics. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a pu effectivement tous après fredonner des thèmes de telle comédie musicale ou tel film, mais c'est signé d'un grand compositeur. Et puis, il y a eu aussi dans les années 20-30, faut pas sous-estimer ça, il y a eu un exode de beaucoup de compositeurs qui fuyaient soit le régime soviétique, soit le fascisme, soit le nazisme, et qui n'avaient pas eu le temps de se faire encore un grand nom, entre guillemets, dans le répertoire lyrique ou symphonique, mais qui sont arrivés aux États-Unis, et c'est Hollywood qui leur a fait des ponts d'or. Parce qu'ils avaient la connaissance de l'écriture, ils savaient orchestrer, ils étaient très 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 bons et très très doués, et donc on a utilisé leur talent immédiatement, si je pense à Korngold par exemple. Donc des gens qui se sont fait d'abord connaître par le cinéma, et après leur œuvre symphonique a pu être révélée. Et c'est vrai qu'il y a aussi le cas des cinéastes qui utilisent de la musique classique déjà existante, si on pense à Kubrick. Kubrick, lui, n'a jamais fait composer une seule partition originale pour ses films. Il ne fait qu'utiliser les musiques préexistantes. Alors, 2001, l'Odyssée de l'espace, avec Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss, ou le Beau Danube bleu, ou même le Requiem de Ligeti, la Chevauchée des Valkyries, Wagner, enfin, etc. Voilà. Kubrick se sert des musiques qui existent. Ah, Barry Lyndon, ça c'est quelque chose de formidable également, avec le trio de Schubert, ou la grande sarabande de Handel. Voilà. Mais on peut se servir de musiques déjà composé, c'est ce que va faire aussi Walt Disney dans Fantasia, par exemple, hein, avec l'apprenti sorcier de Duca, avec Pancelli, la ronde des heures, avec Casse-Noisette. Mais il y a aussi effectivement la grande volonté de beaucoup de cinéastes de marquer un petit peu leur œuvre par une musique originale qui aura vraiment été composée pour leur film.
Star Wars.
Ah bah Star Wars, John Williams, le grand, grand John Williams. Mais John Williams, c'est un parcours de folie, parce que John Williams, il compose Star Wars, il compose Dents de la mer, il compose E.T., il compose Star Trek, enfin, il compose Superman, enfin, il en compose, c'est incroyable. Et c'est en même temps un héritier d'une grande école d'orchestration qui venait probablement de Russie. C'est-à-dire des compositeurs comme Dmitri Tiomkin, par exemple, qui avait étudié à Saint-Pétersbourg, qui avait étudié à Moscou et qui était détenteur d'une connaissance de l'orchestration et des couleurs orchestrales. Tiomkin va faire carrière à Hollywood et c'est évident que des gens comme John Williams ont écouté cette musique-là, se sont nourris de cette musique-là.
Nous commençons par le commencement avec Camille Saint-Saëns et l'assassinat du duc de Guise. Je vous laisse imaginer les pantomimes des acteurs du muet.
Thank you.
pour la suite, il n'y a pas de logique, mais un zigzag au petit bonheur entre les compositeurs de musique de film avec orchestre symphonique ou les emprunts de réalisateurs de films à la musique symphonique. Vous me suivez ? Et pour la forme, je partage la musique et je vous dis le titre et le film ensuite. C'était le thème du film « Les dents de la mer » de Steven Spielberg, sorti en 1975. Musique John Williams. Philippe en a parlé tout à l'heure.
Thank you. Thank you.
Avez-vous reconnu la musique du film Fantasia de Walt Disney, sorti en 1940 ? Le morceau est L'apprenti sorcier de Paul Dukas, poème symphonique composé en 1897, interprétation par l'Orchestre national de France sous la direction de Dalia Staveska. C'était un extrait du film L'écoriste, Caresse sur l'océan, musique originale composée et dirigée par Bruno Coulet avec les petits chanteurs de Saint-Marc. Le réalisateur du film sorti en 2004 est Christophe Baratier. Et pour le plaisir, encore un petit peu. Ce morceau-là, c'était « Voix sur ton chemin », toujours les choristes. C'est 1982, E.T., l'extraterrestre, de Steven Spielberg. Et la musique, c'était John Williams. C'est un petit clin d'œil à mon petit frère. Thank you. C'était Tous les matins du monde, un film français réalisé par Alain Corneau, sorti en 1991. La musique, c'était Jean-Baptiste Lully, né en 1632 et mort en 1787, et ça s'appelait Marche pour la cérémonie des Turcs. C'était le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick, sorti en 1976 à la Sarabande de Handel, composé en 1733. On continue un tout petit peu avec cet emprunteur qu'est Kubrick. Thank you. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, donc, sorti en 1968, celui-là. C'était Strauss, ainsi parlait Zarathoustra. L'aventure et l'amour dans les étoiles avec une musique pareille, ça peut que fonctionner. C'était Star Wars de George Lucas. Le compositeur était à nouveau George Williams. Cette oscillation atemporelle est accoquinée à l'actualité culturelle de notre Sud-Ardèche, puisque pour ceux qui voudraient entendre d'autres musiques de films et sentir dans leur corps les vibrations des instruments, rendez-vous avec l'Orchestre symphonique Rhône-Alpes Auvergne, sous la direction de Laurent Pilot, pour le concert La musique symphonique du 7e art. C'est dimanche 17 novembre à 17h au Théâtre de Privas. Au programme, L'apprenti sorcier de Paul Dukas, La valse des fleurs, La danse des heures pour Fantasia, Le lac des cygnes de Tchaïkovski que l'on entend dans les dernières scènes de Billy Elliot ou dans Des hommes et des dieux, l'ouverture de La force du destin de Verdi, générique de Jean de Florette, et les musiques de John Williams composées pour la saga Star Wars et Jurassic Park. Pour prendre les places, adressez-vous au Théâtre de Privas. La prochaine oscillation atemporelle de fréquence 7 sera en décembre. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.